18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, chers amis auditeurs, bonjour, bonjour, c'est un plaisir d'ouvrir la semaine avec vous. C'est un plaisir de vous retrouver chaque jour, quotidiennement, vous le savez, votre nouvel horaire, votre nouveau créneau, 18h, 19h30, et nous sommes ensemble, plus que jamais, pour commenter, analyser et décrypter l'actualité. Elle est riche. Et oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous proposer. Alors, au sommaire de cette émission, de ce talk qu'est le vôtre, eh bien, tout d'abord, nous reviendrons sur les Républicains. Ciotti, Retailleau, ils sont déjà en campagne à Angers. Qui pour incarner la présidence des Républicains prochainement? Nous allons en parler, et notamment avec notre invité, Stéphane Tiki, qui est l'ancien président des Jeunes Républicains. Ensuite, autre sujet, vous partout en France, chers amis auditeurs. Alors, on vient de vivre une conférence d'Emmanuel Macron, il y a à peine quelques minutes, où il nous précise, où il nous appelle à chacun d'entre nous d'économiser 10% de ce que nous consommons actuellement pour éviter les rationnements d'énergie cet hiver. Alors, est-ce qu'on peut nous demander à nous d'être au rendez-vous de la sobriété? Je sais que ça va vous agacer, chers amis auditeurs. Clochette, exactement. 01 53 48 3000, je vous attends tout de suite au standard. Est-ce que vous aussi, vous entendez le message du président de la République qui appelle au rendez-vous de la sobriété pour éviter les rationnements? Il demande à chacun d'entre vous, évidemment, eh bien, un effort et d'économiser 10%. 10%, c'est énorme, les amis. Hein. Emmanuel Macron, que se passe-t-il? Doit-on craindre le pire pour cet hiver? Ça va cailler, je le sens. Bon, ensuite, autre sujet, l'inflation. Alors, les amis auditeurs, ce que je vous mets sur la table, au 01 53 48 3000, sachez que l'inflation, face à la flambée des prix qui continue, des prix de l'énergie, bien sûr, les piscines, les patinoires, eh bien, vous savez, il n'y en a pas un ou deux. Une trentaine de piscines qui sont contraintes de fermer en France, tout simplement en raison de l'explosion des prix de l'énergie. Aïe, 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 aïe. On est en France ou on est quelque part dans le monde? Moi, j'avoue, j'ai du mal à suivre, là. Franchement, que les piscines ferment, plusieurs, c'est pas une, plusieurs. Bon, ben, je voudrais vous entendre, tous ceux qui pratiquent, évidemment, la natation, la patinoire, eh bien, vous allez être contraints, justement, de ne plus y aller. 18h30, 19h30, le face-à-face avec Pierre Henry, un grand acteur politique qui sera avec nous, qui sera face à cette grande gueule, le syndicaliste. Notre syndicaliste à nous ici, qui s'appelle Jimmy Dalidou. C'est 18h30, 19h30. Allez, pour l'heure, c'est parti, c'est tout de suite, et en toute liberté d'expression, Les Informés.
Beurre FM, 18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
C'est parti pour l'interview de la semaine.
Les Informés. Les Informés. L'interview.
Enfin, l'interview du jour, plutôt. C'est avec Stéphane Tiki, acteur politique. C'est l'ancien, évidemment, président des Jeunes Républicains. Merci d'être avec nous, monsieur Stéphane Tiki. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup Adi de votre invitation. C'est un immense plaisir, comme à chaque fois, d'être avec vous aujourd'hui.
Partagé également. Stéphane Tiki, Emmanuel Macron vient de s'exprimer. Je voudrais vous soumettre tout d'abord cette actualité toute récente, Emmanuel Macron qui appelle à économiser 10% de ce que nous consommons actuellement. Écoutez ce petit extrait de la conférence tenue tout à l'heure, évidemment concernant l'énergie.
Le deuxième élément clé de cette stratégie pour passer l'hiver, c'est de sauver l'énergie que nous pouvons sauver. C'est la sobriété énergétique. Et je veux vraiment insister sur ce point, parce que nous avons chacun un rôle à jouer en la matière. Et il est très important. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, à cet égard, le gouvernement a élaboré une première série de mesures. Il en a préparé une série d'autres. Et nous avons, je vais être très simple, et la Première ministre, les ministres rentreront dans les prochains jours et les prochaines semaines dans le détail. Mais notre objectif, c'est par ce biais-là d'économiser environ 10% de ce qu'on consomme habituellement.
Stéphane Tiki, votre réaction tout d'abord, le président de la République qui appelle les Français à faire des économies.
J'entends ce que dit le président de la République, mais ce qui m'embête dans ce système-là, c'est qu'on est toujours à réagir sur les conséquences et jamais sur les causes. Aujourd'hui, il nous parle de sobriété énergétique, alors qu'on oublie quand même qu'il y a quelques années, avec François Hollande, qui était secrétaire général de l'Élysée, c'est eux qui ont fermé les centrales nucléaires qui font que nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui, en fermant Fessenheim et tout ça. Et quand on parle avec les acteurs de l'énergie, ils vous disent que si on avait gardé ces centrales nucléaires et qu'on avait continué à produire de l'énergie, on n'en serait pas arrivé là où on en est là aujourd'hui. Donc, pour moi, ils sont responsables de ce dans quoi on en est arrivé aujourd'hui.
Est-ce que vous entendez, est-ce que vous pensez, j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure au 01 53 48 3000, Stéphane Tsiki, vous, ancien président des Républicains, est-ce que vous pensez que les Français vont jouer le jeu? Est-ce qu'ils vont, bon là, il est somme un peu de faire des économies, est-ce que réellement, franchement, les Français vont économiser 10% de ce que nous consommons actuellement? C'est énorme.
Je pense que 10% c'est beaucoup. Après, c'est vrai que depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron, on apprend quand même à vivre beaucoup avec les restrictions. Vous savez, on a vécu avec ce Covid, en étant tous confinés chez nous, en faisant attention. Voilà. Après, si aujourd'hui on se rend compte que pour la vie future, il faut qu'on fasse des économies d'énergie pour que chacun puisse continuer à vivre avec du chauffage, pour pouvoir chauffer pendant l'hiver, bah, c'est un effort individuel qui va mener sur un effort collectif. Donc moi, je comprends cela. Et parce qu'on pense à l'intérêt général, bien sûr, pour que tout le monde puisse pouvoir bénéficier du chauffage, par exemple. Mais ce qui m'embête, c'est qu'encore une fois, ceux qui nous dirigent, lorsqu'ils étaient aux manettes, ils auraient pu faire des choix différents, comme ceux de garder les centrales nucléaires ouvertes et de continuer à produire. Et ces productions-là auraient pu nous permettre d'avoir une quantité d'énergie suffisante. Et comme malheureusement, dans le système dans lequel on est politiquement, dès qu'un nouveau système arrive, première chose qu'il fait, c'est enlever tout ce qu'avait fait le précédent. Dès que François Hollande est arrivé en 2012, qu'est-ce qu'il a fait? C'était fermer les centrales nucléaires parce que c'était l'idée de Nicolas Sarkozy, juste parce que c'était son idée. Ils ont tout fermé et aujourd'hui, on en voit les résultats avec ça, où on se rend compte qu'aujourd'hui, on est vraiment plus dans l'abondance et il faut qu'on fasse attention à l'énergie et pour pouvoir bénéficier aussi du chauffage, de la chaleur et de l'énergie demain pour nous tous. Donc voilà, c'est malheureusement un peu trop tard. C'est la conséquence d'une mauvaise décision prise par le président François Hollande, dont le secrétaire général, rappelons-le, était Emmanuel Macron en 2012. 10 ans plus tard, on paye. Voilà.
On va parler d'un sujet évidemment qui vous concerne, Stéphane Tsiki. C'est celui au campus des jeunes à Angers. Eh bien, les candidats à la présidence se lancent un peu une bataille. La bataille qui s'installe d'ailleurs, notamment avec deux cadres, Éric Ciotti, le député LR des Alpes-Maritimes, et Bruno Retailleau, le sénateur de la Vendée. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
D'abord, je voudrais rendre hommage à Guillaume Carayon et à toute l'équipe des jeunes, puisque moi-même j'ai été, comme vous l'avez dit précédemment, président des jeunes, et je suis aujourd'hui d'ailleurs conseiller national des Républicains, pour tout le travail qu'ils ont mis, de voir plus de 700 jeunes présents, alors qu'on dit que aujourd'hui on parle plus à la jeunesse, avoir 700 jeunes rassemblés à Angers pour construire la reconquête, et ben déjà c'est déjà un beau message. Et ensuite viendra ce temps de la bataille électorale, une élection interne, où il y a des candidats brillants, il y a Bruno Retailleau qui est le président des Républicains au Sénat, Éric Ciotti qui est député des Alpes-Maritimes, et aussi Aurélien Pradier qui est député dans le Lot. Voilà, donc il y a pas mal de candidats avec chacun une vision. Finalement, pour moi, le cœur du système, c'est quand même ce qui nous rassemble tous et c'est pas ce qui nous divise, puisqu'on a les mêmes valeurs en MZADN. Maintenant, il peut y avoir des différences ici ou là. On a hâte que chacun propose son programme. Nous ne voulons surtout pas une guerre des chefs aujourd'hui. On veut des idées nouvelles, on veut rebâtir un parti politique, on veut rebâtir aussi une identité. Qu'est-ce que c'est que les Républicains aujourd'hui? Quelles sont les valeurs portées par les Républicains? Quelle est cette ligne portée et comment on peut l'incarner afin de continuer à être la seule alliance crédible au macronisme qui va bientôt s'arrêter puisque le président...
Peut-on dire aujourd'hui, mon cher Stéphane Tsiki, que les Républicains ont tiré les leçons de leurs échecs concernant la campagne présidentielle, notamment avec Valérie Pécresse et tout le fiasco évidemment accompagné par cela? Est-ce que vous avez tiré les leçons et surtout... Quel bilan avez-vous tiré?
Écoutez, pour moi, les leçons ne sont pas encore tirées. Et je pense que d'ailleurs, le fait qu'il y ait cette élection interne doit être le moment pour qu'on puisse justement les tirer, de dire voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi on en est arrivé là? Parce que nous sommes quand même un parti de gouvernement. Voilà, ne pas tirer sur l'ambulance, parce que c'est vrai que, voilà, on a donné le meilleur de nous-mêmes. Mais si on arrivait à ce score-là, c'est que quelque chose n'a pas fonctionné. Donc moi, je pense que le plus important aujourd'hui, c'est faire un bilan, mais un bilan, ne pas mettre la poussière sur le tapis, dire tout ce qui ne va pas, voilà, et puis travailler les uns avec les autres, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude de voir plutôt les uns contre les autres, dire voilà, on a une nouvelle génération, avec aussi une génération d'expérience, si on peut avoir les deux qui travaillent main dans la main, pour qu'on puisse continuer à avancer ensemble, ben ce serait l'idéal. Et je pense que pour que les Républicains redeviennent ce parti de gouvernement qu'ils ont été, avec un grand président Nicolas Sarkozy, c'est d'abord travailler le fond, les idées, les valeurs, et ensuite parler à tous les Français, ça veut dire les Français issus des quartiers populaires.
Stéphane Tsiki, paraît-il que Éric Ciotti est en bonne posture pour incarner la présidence des Républicains. Les militants, en tout cas, il y a une adhésion des militants.
Une adhésion des militants pour Éric Ciotti, comme pour Bruno Retailleau, comme pour Éric Pradier. Chacun se retrouve dans cette ligne-là et chacun a un coup à jouer. Donc c'est le plus important, c'est que Éric Ciotti ne veut pas de toute façon devoir travailler avec Bruno Retailleau, avec Éric Pradier, parce que nous sommes de la même famille politique. Et donc, que les militants vont avoir à voter. On a un peu de temps quand même, mon cher Adil, parce que l'élection est en décembre. Donc d'abord, il y aura une élection des parrainages pour avoir déjà qui peut être candidat. Parce qu'officiellement, aujourd'hui, vous savez, Adil, tant que les gens n'ont pas déposé leur parrainage, et ben dans ce cas-là, on peut pas dire que du coup, ils sont officiellement candidats. Donc on attend de voir, en fait, une fois que les parrainages vont être déposés, qui sont les réels candidats. Et ensuite, voilà, ce sera un débat d'idées entre des gens de la même famille politique et qui veulent que la famille ressorte grandie et qu'elle parle à tous les Français, que ce soit aux jeunes, aux retraités, aux entrepreneurs, aux quartiers populaires, aux agriculteurs. Voilà, mais vraiment retravailler le son avec la nouvelle génération et avec ceux qui sont un peu plus d'expérience, qui sont là aussi depuis quelques temps.
Merci Stéphane Tsiki. Je le rappelle à nos auditeurs partout en France que vous êtes l'ancien président des Jeunes Républicains. Merci d'avoir été avec nous, Stéphane Tsiki.
C'était un plaisir.
Plaisir partagé. À bientôt. Je vais tout de suite ouvrir le standard. Le standard est ouvert. Ça y est. Je vous attends partout en France. Et bien sur deux sujets d'actualité. Le président Macron qui appelle, là, maintenant, après une conférence, effectivement, il dit clairement qu'il faut. Il appelle les Français à économiser 10% de ce que nous consommons actuellement pour éviter les rationnements d'énergie cet hiver. Alors ma question est très simple, chers amis auditeurs. Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu ? Est-ce que vous, quotidiennement, vous êtes prêts à faire des économies de 10% ? 10% c'est pas rien. Pour évidemment éviter la catastrophe, pour éviter les rationnements d'énergie cet hiver. Le chef de l'État l'a annoncé tout à l'heure. Donc je voudrais vous entendre au 0153483000. Là maintenant le standard est ouvert. Autre sujet, chers amis auditeurs, c'est qu'il y a plusieurs piscines, plus d'une trentaine de piscines qui sont contraintes de fermer en France. Vous savez pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, la raison principale, l'explosion des prix de l'énergie. On est en plein dedans. Donc ça veut dire que si les piscines concrètement commencent à fermer, les patinoires, en gros, dans quelques semaines, on va nous annoncer aussi d'autres fermetures de d'autres lieux. En gros, ça va être ça. Et ça s'appelle la France. La France qui est quand même la cinquième puissance mondiale. Bon, eh bien venez vous exprimer. 01 53 48 3000. Premier sujet, est-ce que vous êtes prêts à faire des économies pour éviter la catastrophe cet hiver ? De 10%. Emmanuel Macron demande à tout le monde de faire des économies, de consommer moins en gros et de faire des efforts de 10%. Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu ? 01 53 48 3000. Je vous attends tout de suite. Deuxième sujet, les piscines, les patinoires et peut-être d'autres lieux, ça y est, la raison c'est l'explosion des prix de l'énergie, eh bien elles sont contraintes de fermer. Baisse du chauffage, peut-être même d'ailleurs les musées vont être fermés. Sachez-le, faut être très clair. Hein. Donc les communes se serrent la ceinture. J'ai l'impression que ça va être chaud de plus en plus, ça va être explosif. Peut-être que la grogne sociale va s'annoncer de plus en plus aussi. 01 53 48 3000, je vous attends, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Eh oui, Et si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, les informés. Les informés, c'est de 18h à 19h30, votre nouvel horaire. Et je veux entendre notre standard exploser. Les auditeurs ont la parole, c'est parti.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Oui, parce que normalement, c'est des sujets qui nous concernent tous, là. Les piscines, les musées, les patinoires, bref, qui commencent à fermer à cause de la flambée des prix et à cause de l'énergie. Ça craint quand même tout de même. Je voudrais vous entendre dire, nous communiquer votre avis, tout simplement à la réaction du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui nous demande de consommer 10% de moins, évidemment, donc qui nous appelle à économiser 10% de ce que nous consommons actuellement. C'est énorme aussi. Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu? Je voudrais vous entendre. 01 53 48 3000. 01 53 48 3000. Direction Cambrai. Samira, bonjour.
Salam alaikum.
Ah, bonjour. Bien. Bonjour. Comment ça va, ma chère Samira?
Ça va, Adil, et toi, tu vas bien?
Mais très bien. Vous avez l'air en forme, enthousiaste, hein?
Eh ben, il fait beau. Je vais pas me saper le moral juste parce que Macron nous a dit de faire des restrictions.
Ouais.
Je suis pas vraiment d'accord. Bah,
le ton est donné, hein, par le chef de l'État.
Oui, hein. Oui, complètement. Je suis complètement. Stéphane, je crois, celui qui est passé avant, monsieur.
Oui.
Qui a donné son avis, voilà. Concernant, concernant les restrictions. Bon, voilà, c'est ça, exact. Moi, je dirais. Que déjà, ils n'auraient pas dû effectivement fermer les centrales nucléaires, ça c'est clair et net. Et d'autant plus que dire moi à mes enfants, parce que j'ai des jeunes enfants qui sont entrepreneurs et qui travaillent en télétravail et qu'ils ont absolument besoin de travailler, on va pas dire H24, mais presque, de leur dire bah, il va falloir un petit peu réduire votre façon de travailler ou autre, ça va être compliqué. Moi, perso, j'attends que le gouvernement eux-mêmes fasse déjà l'effort.
Samira, qu'est-ce qui va être compliqué de faire des économies de 10% ou de l'appliquer quotidiennement?
Moi, je dirais de l'appliquer.
Ça veut dire, en gros, c'est les réflexes quotidiens. D'éteindre les lumières, oui. D'éviter le gaz, d'éviter... c'est ça, de prendre moins de douches, de faire des économies, de moins laisser couler l'eau, par exemple, et le gaz.
Moi, je suis constamment derrière mes enfants. Quand ils prennent la douche, je leur dis, bon, un temps de douche. On me dit, maman, on n'est pas en train de mettre des pièces. Donc voilà, c'est compliqué. C'est tout le temps en train de taper sur la porte. Allez, dépêchez-vous. Bah non, plus je leur dis ça et plus ils restent. Donc ça va être compliqué. En fait, je pense que il va falloir prendre d'autres habitudes pour pouvoir effectivement faire des économies déjà pour nous, mais en même temps aussi pour les restrictions.
Comment,
je sais pas, moi, franchement, je sais pas, j'attends de voir s'ils nous mettent des compteurs, s'ils nous bloquent, j'en sais rien, franchement, je sais pas du tout. Moi, perso, je suis très, je vais pas dire inquiète, mais je suis un peu sceptique. Donc,
vous pouvez être inquiète, Samira. Si, vous pouvez être inquiète, parce que, attendez, il y a un deuxième sujet que j'ai lancé, je voudrais vous entendre, Samira. 01 53 48 3000, d'autres auditeurs aussi, je vous attends au standard. Vous savez, c'est ces trentaines de piscines qui ferment aujourd'hui en France. Demain, ça va être les musées, ensuite les patinoires, et ensuite d'autres lieux. Les communes, les mairies qui se serrent la ceinture. C'est préoccupant, Samira, quand même, tout de même. Hein.
C'est assez préoccupant. À Colombes, j'ai entendu dire que déjà la piscine de Colombes est fermée.
Ah, la piscine de Colombes est fermée?
Parce que oui, alors, je ne sais pas très bien ce qui se passe. Elle est en travaux. Disent qu'elle va être fermée, donc après c'est la patinoire, donc je ne sais pas si déjà en amont ils sont déjà en train de conditionner certaines communes. Moi perso, je vais être un peu égoïste, je vais pas à la piscine, donc mais pour ceux qui y vont, ça va être compliqué aussi, ça va être difficile de leur dire il n'y a plus de piscine, donc ils vont être obligés de se retrancher dans d'autres communes. Et est-ce que ça va pas faire aussi pareil une éclaboussure au niveau de certaines régions, j'en sais rien, ça va être compliqué. J'ai l'impression que là on régresse, on va en arrière parce que ce fameux gouvernement n'a pas su faire les devants, du moins prendre les bonnes initiatives, tout simplement. Et aujourd'hui, on est passé par le Covid, on a eu des restrictions, aujourd'hui on a d'autres restrictions. C'est compliqué, hein, ça devient compliqué, on se pose des
compliqué.
Questions.
C'est compliqué parce que crise sociale, les gilets jaunes, crise sanitaire, le Covid, crise énergétique, on est en plein dedans et je pense que ça va durer. Est-ce que les Français, jusqu'où les Français peuvent patienter?
Donc moi, juste pour petite parenthèse, j'ai un fils de 25 ans, il est en train de se poser des questions, est-ce qu'il va rester en France ou va partir à l'étranger? Il me dit, je peux plus, je peux plus. Donc Il a ras-le-bol et déjà il a vécu très mal le confinement.
Il veut se barrer.
Donc là maintenant, ouais, il veut partir. Il parle de Canada, il parle du Maroc. Il sait pas encore où il veut aller et ce qu'il veut faire. Bon après il peut travailler.
Vous avez raison, Samira. Vous savez que les jeunes veulent se barrer déjà depuis quelques années. Ils sont nombreux à se barrer. Hein. Tiens, c'est un sujet, c'est ça. Je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui la France est encore l'avenir potentiellement pour les jeunes, ou est-ce que comme Samira et son fils, vous voulez vous barrer de la France pour préparer votre avenir? Je vous attends au 01 53 48 3000. Samira, vous vouliez dire quoi?
Ouais. Ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et appelez, ça vaut le coup d'appeler parce que vraiment, super ambiance chez vous. Merci encore.
Vous aimez l'ambiance, ça me fait plaisir.
Ah oui, non, franchement, déjà la personne que j'ai eue au standard, là, très bien. Ouais. Très bon accueil aussi.
Ah, le standard, il est chaleureux. Giovanni, c'est Giovanni. Giovanni, c'est la classe.
Ah, Giovanni, d'accord.
C'est la classe, Giovanni. C'est la classe, c'est la classe.
On a un point commun avec Giovanni.
Ben écoutez, je voulais gérer votre point commun. Hein. Ça vous regarde.
Merci Adil. Au revoir.
Merci Samira et gardez votre enthousiasme. Vous nous transmettez cette belle énergie positive. Mohamed, bonsoir mon cher Mohamed du Val-de-Marne. Quelle ville du Val-de-Marne, Mohamed ?
L'Île-et-Rose.
Bonsoir Mohamed, je vous écoute.
Voilà. Bah, j'ai entendu le sujet, il m'intéresse un petit peu, les 10% de, hein. Je fais plus de 10% d'économie. Moi, je fais toujours attention à l'électricité, le gaz et tout ce qui s'en suit. Moi, personnellement, ça me touche pas.
Parce que vous-même, Mohamed, vous le pratiquez dans votre quotidien. Ça veut dire que vous faites vous-même, vous auto, évidemment, comment dirais-je? C'est pas que vous vous obligez, mais quelque part, Mohamed, vous forcez à cette contrainte quand on parle d'électricité et de gaz.
Quand vous voyez le prix de l'électricité, du gaz, de l'eau, vous êtes obligé de faire des économies, sinon, hein. Sinon, vous allez recevoir des factures salées tous les fins de mois. Moi, je fais attention. Moi, même s'il baisse de 10%, moi, ça va pas me toucher, franchement. Je fais attention. D'où j'avais une baignoire, je l'ai enlevée.
Mais vous faites attention pour des raisons budgétaires, Mohamed.
Exactement, oui. Et pour la planète aussi, hein. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le...
Bravo, c'est bien. Bravo. Bravo, Mohamed. Normal, bravo.
Il faut faire attention. Faire attention à la chasse d'eau, ne pas... Même la chasse d'eau, quand vous tirez 4, 5, 6, 7 fois la chasse d'eau avec 10 litres d'eau, à la fin de la journée, vous utilisez plus que... Hein. Vous savez, on utilise plus l'eau des toilettes que la douche. Vous le savez ou pas?
Je crains que oui.
C'est la vérité.
Alors, mais c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Combien de fois, il faut s'amuser à compter combien de fois on tire la chasse d'eau.
Ben, il paraît que ça coûte... qu'on consomme plus... avec la chasse d'eau qu'avec la douche.
Bon, si bah, écoutez, on va aller chercher ces études.
Si vous êtes 4 à la maison, vous allez au moins 2 fois par jour.
Ah ben bah, ça c'est vrai. Ça c'est
voilà,
vrai.
Vous tirez, vous tirez 2 fois.
Pardon, mais si le sujet est un peu mais si vous allez aux toilettes effectivement, allez, vous êtes 4 3 fois ou 4 fois par jour effectivement, ouais. Ouais.
À la fin de la journée, je vous assure que ça vous consomme. Et puis, si vous n'avez pas des toilettes, économiques, c'est 10 litres à chaque fois.
Ça fait rire, Giovanni, ça. Mais c'est la vérité, je suis d'accord avec toi, ça fait partie de l'énergie, des coûts énergétiques. Merci, Mohamed.
Il n'y a pas de quoi. C'est pour ça qu'il y a juste, je vais vous dire un truc, il y a quelqu'un de... Il y a un monsieur qui a inventé un système de, comment dire, les eaux usées, ils les utilisent dans les toilettes. Vous avez vu ça?
Oui, je crois que j'ai vu quelque chose de très technologique, oui. J'ai vu passer un
truc
comme ça.
Voilà, donc au lieu que ça part, les eaux de la machine à laver, les eaux, au lieu que ça part directement, c'est recyclé, ils vont dans les toilettes. Ça,
exactement.
C'est bien.
Mohamed, merci pour votre intervention.
Merci bien, bonne continuation à vous, merci.
Fouzia, direction le sud de la France. Aix-en-Provence. Bonsoir, ma chère Fouzia. Fouzia, vous êtes là ?
Oui, je suis là.
Bonsoir.
Bonsoir, Adil. Vous allez bien ?
Je vais très bien quand je vous écoute.
Merci beaucoup.
Allons-y, ma chère Fouzia.
Alors, ben moi, je suis scandalisée, mais bon...
Ah, la drôle, une clochette. Ta-da-ta-ta-ta ! Elle est scandalisée, le ton est donné. On vous écoute.
Ben, on fait déjà des économies, on fait déjà attention. Comme il vient de dire le monsieur pour la chasse d'eau, mais on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement que de tirer la chasse, sinon ce n'est pas possible. Ça ne serait pas vitable. Donc... Mais bon, nous obliger à se restreindre par rapport... Il y en a qui disent qu'on n'aura pas de chauffage cet hiver. Bon, les piscines fermées, si ça ferme juste pendant quelques temps pour voir un peu, je veux dire, c'est pas la fin du monde, la piscine, c'est pas vital. Donc, si on n'y va pas, c'est pas non plus un drame.
Oui, sauf que là, on parle pas que des piscines, hein. On parle de la patinoire, on parle des établissements de musées et d'autres à venir. Hein.
Oui, mais c'est pas définitif. C'est pas définitif.
Jusqu'à quand ? Je ne sais pas.
Voilà, on ne sait pas. Donc, après, tant que c'est pas vital, moi, ça me dérange pas. Voilà, tant que c'est pas vital. C'est pas vital, je veux dire, que la piscine, elle reste ouverte.
Oui, en soi, oui, c'est pas vital. C'est pas ça qui, évidemment...
Voilà. Voilà, c'est pas vital, donc qu'on soit scandalisé, je veux bien, mais c'est voilà, ce qui est vital, c'est l'eau. L'eau, si on nous restreint en eau,
ce qui est vital, par contre, ce qui est vital, c'est de savoir si on peut économiser 10%. Voilà, l'énergie.
Je pense.
Gaz, électricité.
Je pense qu'on peut économiser. Je pense, c'est sûr, c'est certain même.
Vous pensez vraiment que les Français peuvent jouer le jeu ?
Bah, on peut jouer le jeu, pourquoi pas ? De toute façon, si on nous l'impose, on sera bien obligé de le faire et on verra bien. On verra bien. D'accord. Et de là de dire, oui, la France, ça va pas du tout, on va se voir partir ailleurs. Moi, je me vois pas partir ailleurs. Je veux dire, si ça se passe ici, ça va se passer ailleurs. Ça va se passer ailleurs aussi. Donc, il y a une dame qui a dit pour le Maroc, vous savez, au Maroc, quand il fait vraiment très chaud et que les gens abusent avec l'eau, eh ben, là-bas, ils ferment l'eau de telle heure à telle heure. Et ils n'ont pas le choix et ils font avec.
C'est vrai, vous avez raison. Au Maroc, c'est ça. C'est des restrictions radicales. Alors, on ne plaisante pas avec ça.
Exactement. Non, voilà, et je trouve que c'est très bien parce qu'il y en a qui abusent. Il y en a, le Marocain, il aime bien nettoyer avec l'eau. Hein. C'est à grand eau et ils savent pas faire, savent pas aller doucement. Mmh. Donc, moi une année, j'étais là-bas et je me rappelle dans les après-midi, des fois c'était le matin à partir de 10h et l'eau elle était fermée jusqu'à 6h le soir.
Oui. Alors peut-être qu'on va. Non, mais attendez, ce que vous nous êtes en train de dire là, peut-être que la France. On y arrive, vous imaginez ? La tranche d'horaire, on ferme l'eau de telle heure à telle heure.
Exactement.
Ben, si les Français ne jouent pas le jeu, à mon avis, je pense qu'on va... Non mais peut-être, c'est... Non mais attendez, c'est pas anodin ce qu'on est en train de se raconter là. 0153483000. Et si finalement ça nous arrivait justement voilà. De
alors,
subir ces...
Voilà. On fait comment ? On fait comment ? Ah ben
question.
Voilà. Ben, il faut s'habituer. On s'habitue à tout. C'est comme là, on s'est habitué à avoir de l'eau à volonté. On ouvre le robinet, oh magique, il y a de l'eau. Mais l'eau, elle
Allez.
Est précieuse, l'eau, faut pas.
Exactement. Faut pas la on continue de prendre les auditeurs au 0153 48 3000. Merci, ma chère Samira.
Ok. Allez, au revoir.
À très bientôt. Pub, et on se retrouve avec le face à face.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
18h41, si vous êtes nombreux à nous suivre, 0153 48 3000, est-ce que vous êtes prêts à faire des économies ? Mais surtout, le chef de l'État Emmanuel Macron réclame et demande d'économiser tout simplement, de faire économiser 10% de ce que nous consommons actuellement. Est-ce que vous êtes prêts à jouer le jeu ? Les jeunes se barrent de plus en plus de la France. Ça aussi, c'est une vraie question qu'on se pose. 0153 48 3000, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Pierre-Henri, ça va ?
Ah ben ça va plutôt bien, et surtout,
bonjour.
Dès lors que je suis sur l'antenne de Beurre FM, et avec vous, mon cher Adil.
C'est ça, le patron de France Fraternité, tout va bien ?
Tout va bien.
et acteurs politiques aussi notamment. Le syndicaliste CGT, représentant notamment de la...
CGT.
De la CGT, c'est ça.
Tout à absolument. Fait.
Jimmy Dalidou, bonjour.
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Ça va et vous? Pareil, oui. Quand je suis sur Beurre FM, ça va.
Messieurs, tout de suite, nous allons démarrer très fort. Je vous fais écouter ce court extrait du président de la République, Emmanuel Macron, concernant, vous savez quoi, la crise de l'énergie. La crise de l'énergie avec ce bouclier. Le bouclier, je mets mes lunettes juste pour voir. Et bouclier tarifaire en 2023 pour éviter la catastrophe. Emmanuel Macron, tout à l'heure, il a donné une conférence. Il dit quoi? Il appelle à économiser 10% de ce que nous consommons actuellement pour éviter le rationnement de cet hiver. Écoutez. Ah, on va retrouver le petit sonore. Pierre-Henri?
Oui. Bah, moi, ce que je souhaiterais, c'est de la transparence sur la situation de nos approvisionnements. Parce que j'entends les responsables européens
ça, c'est
expliquer
vrai.
Qu'il y a aujourd'hui 80% du gaz qui est stocké et qu'il n'y a pas de difficulté. Puis en même temps, j'entends d'autres voix tout aussi autorisées qui nous expliquent que le stockage n'est qu'une partie de la consommation des Françaises et des Français et que cela représente simplement 30%. Donc ça, c'est un premier problème. Et puis une deuxième question, je voudrais savoir aussi si il y a une perspective de sortie de crise à la guerre en Ukraine, parce que ça fait maintenant près de 7 mois que nous y sommes. Alors, est-ce que nous sommes en guerre? Est-ce que nous cherchons une voie diplomatique pour mettre, pour sortir de la guerre et trouver une issue honorable aux deux? Et en ce qui concerne évidemment la situation de l'énergie et les économies que nous devons faire, oui, moi, personnellement, j'y suis prêt. Mais je ne suis pas sûr que ça va suffire.
Je ne suis pas sûr aussi. Écoutez, le court extrait d'Emmanuel Macron, c'était tout à l'heure, il y a à peine quelques minutes.
Le deuxième élément clé de cette stratégie pour passer l'hiver, c'est de sauver l'énergie que nous pouvons sauver. C'est la sobriété énergétique. Et je veux vraiment insister sur ce point, parce que nous avons chacun un rôle à jouer en la matière. Et il est très important. La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et donc, à cet égard, le gouvernement a élaboré une première série de mesures. Il en a préparé une série d'autres. Et nous avons, je vais être très simple, et la Première ministre, les ministres rentreront dans les prochains jours et les prochaines semaines dans le détail. Mais notre objectif, c'est par ce biais-là d'économiser environ 10% de ce qu'on consomme habituellement.
10%. Alors, et moi, j'ai retenu plusieurs choses. La meilleure énergie est celle qui n'est pas consommée. Deuxième point, les 10%. Troisième point, Macron appelle les Français à être au rendez-vous de la sobriété. Jimmy Dalidou.
Oui, non, mais alors, ce discours est franchement, c'est un discours fumeux. Parce que Emmanuel Macron, qui est un grand représentant du capital financier, annonce aux Français qu'il...
Ah, le revoilà, Jimmy Dalidou.
Il leur annonce qu'il
nous a manqué.
Restreignent, alors que ça fait des décennies que les Français se restreignent déjà. Ça fait des décennies que certains Français n'arrivent pas à boucler les fins de mois, qu'ils ont déjà du mal à payer leurs factures d'énergie tous les mois. Certains déjà se restreignent parce que pour payer, avoir une facture moins élevée au niveau de l'électricité ou du gaz, ben ils consomment moins de gaz. Ils essayent de ne pas trop. Ça fait des décennies que certaines personnes vivent quasiment dans le noir pour essayer de pas payer trop cher. Et notre président est en train de leur annoncer qu'il va falloir qu'ils se restreignent encore plus. Alors que dans le même temps, je vous rappellerai que les monopoles capitalistes, c'est-à-dire les multinationales, n'ont jamais été aussi riches et que Total, par exemple, pour la seule année 2021, a fait plus de 40 milliards de profits.
Mais quel rapport?
Donc, le rapport, je vais t'expliquer le rapport. Le rapport est simple.
Là, on parle de consommation.
La sobriété énergétique,
oui,
il l'a liée à l'écorrélative du bouclier tarifaire.
Est-ce que collectivement,
à l'écorrélative du bouclier tarifaire. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire bouclier tarifaire dans un mode de production comme le nôtre?
À tour de rôle.
Oui. plutôt que cette logorée que l'on connaît par cœur, qui consiste à dire « Oh, le président des riches,
c'est une réalité sociale.
Il ne fait pas attention aux gens qui sont le plus dans la précarité. » Je rappelle que c'est un message à la nation et que, en l'occurrence, collectivement, il doit y avoir des mesures de prise.
C'est pas un message à la nation.
La vraie question,
c'est un message à la classe ouvrière et aux couches populaires, donc la majorité des Français, qui vont vivre encore plus difficilement que cette dernière décennie.
Le 19 degrés,
c'est ça qu'il est en train de nous dire.
Attendez, chacun son tour. Jimmy Dalidou,
il ne faut pas oublier une chose.
Allez-y. Je vais expliquer. Et 0153483000 si vous souhaitez intervenir.
Qui est la corrélation qui a été tracée par le gouvernement entre le bouclier tarifaire et cette notion de 10%. Je vous rappellerai que le bouclier tarifaire, ça veut dire, concrètement, d'une manière générale, que vous limitez l'augmentation vous limitez les tarifs pour que ça soit trop, les prix ne soient pas trop élevés.
C'est la consommation.
Mais ça veut dire aussi que forcément, il y a quelqu'un qui va payer les pots cassés sur le plan financier. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que par exemple,
vous limitez le prix avec le bouclier tarifaire. Par exemple, pour l'EDF qui est nationalisé, ça veut dire que ce manque à gagner pour l'État, l'État va chercher l'argent ailleurs. Donc, il va le chercher où? Via les impôts. Augmenter les impôts. Et je vous rappellerai. C'est une analyse de la réalité que les multinationales ne payent pas d'impôts. Ils exportent leur fric dans les paradis fiscaux. Et je vais vous dire, vous savez, c'est qui va payer?
Oui.
C'est les TPE, PME, PMI. C'est la couche moyenne. C'est
alors, eux vous qui répondez quoi? Pierre-Henri. Intéressant quand même tout de même.
Il est tout à fait possible que le tissu industriel, qui est composé d'énormément de petites et moyennes industries, soit impacté par la crise. Et que déjà un certain nombre d'entreprises prévoient, qui sont fortement consommatrices d'électricité, prévoient de fermer. Avec les conséquences que ça peut avoir sur l'emploi, bien évidemment. Mais moi, ce qui me soucie, c'est à la fois une baisse de la consommation et puis, bien évidemment, une baisse des prix. La baisse des prix, on n'y est pas, puisque l'énergie a augmenté de près de 60%. Le coût de l'énergie, plus de 60%. Et là, effectivement, il faut un bouclier tarifaire, notamment pour ceux qui sont dans la précarité. Mais il y a deux mouvements.
On plus démunis.
Il y a un mouvement qui consiste à réduire sa propre consommation d'énergie. Et ça,
qui n'est pas du tout.
Alors messieurs, vous savez quoi? C'est ce que je vous propose. Non, mais justement,
le problème, il y a du mode de production.
Ça fait réagir. Jamie Dalidou, ça fait réagir nos auditeurs. Je voudrais juste vous proposer de retrouver Jamel qui nous appelle du 95. Bonsoir Jamel.
Oui, bonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville du 95?
De là-bas.
Comment?
Deuil-la-Barre.
Vous réagissez, vous dites quoi, vous, Jamel?
Bah, 19 degrés à la maison, donc on va moins consommer. Qui dit moins consommer, dit que les grands patrons vont s'en mettre moins dans les poches. Donc, j'estime que c'est pas quelque chose d'anodin non plus. Voilà. Et moi, je suis chef d'entreprise. Moi, j'ai vu mes factures s'envoler. Vous voyez? Donc, à partir du moment où ce qu'a dit Emmanuel Macron, moi, je trouve que c'est dans la cohérence un peu de l'état actuel aujourd'hui de la France et de l'Europe.
Sauf ce qu'on ne dit pas, c'est que là, cet hiver, il risque d'y avoir des coupures.
Il risque, oui, non.
Je vous le dis clairement, coupures.
Aujourd'hui, on parle de gaz et on parle d'électricité, mais vous oubliez de parler de l'eau. Vous oubliez de parler de l'eau. L'eau aussi, ça devient quelque chose d'une denrée rare. Vous voyez? Donc, il faut économiser l'eau, aussi bien l'électricité que le gaz. Vous savez, moi, je travaille avec des fours au gaz et électrique. Donc, aujourd'hui, je fais un four tous les deux jours, au lieu de faire un four tous les jours. J'ai commencé déjà, moi, personnellement, c'est pour déjà réduire mes factures. Vous voyez? Quand aujourd'hui, je paye le kilowattheure en mètre cube.
Jamel. Pierre-Henri vous demande si vous êtes boulanger.
Oui. Ah, le boulanger. Il y a le boulanger qui est au gaz et le boulanger qui est à l'électrique.
Oui. Jimmy, juste pardonnez-moi. Merci, Jamel, d'être intervenu. Okay. Très important, évidemment, votre point de vue. On va aller à Aix-en-Provence. On va accueillir Jamila. Bonsoir, Jamila. Rapidement, avant de lancer la pub. On vous écoute, ma chère Jamila. Bonsoir.
Bonsoir. Ben, je viens d'entendre que notre président nous demandait de faire des restrictions. Première question, est-ce que lui, il en fait?
que nous, déjà, on fait des restrictions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, on vit un cauchemar. Donc, c'est pas la peine d'en faire plus. Il y a des hivers où on ne se chauffe pas parce qu'on ne peut pas payer. Donc, est-ce que eux, ils en font ? Ma question, elle est là, en fait.
Bonne question, Jamila.
Oui,
est-ce
qu'eux,
ils se chauffent ou pas ?
La réponse, elle est 19 degrés dans les appartements. Ça va. Il y a des appartements qui peuvent
être... Tu penses qu'ils vont couper leur chauffage dans les villas ?
Jamila, attendez, on va la libérer. Jamila, merci d'être intervenue. En tout cas, on renvoie la question à Emmanuel Macron. Est-ce qu'Emmanuel Macron fait des économies ? Oui, c'est une question qu'il faut poser. Jimmy Dalidou, tout de suite après la pub. Tout de suite après la pub, je vous donne la parole. Ah, je sais que vous avez envie de clasher.
C'est un problème.
Je vais vous laisser, chers amis. On lance la pub. Et on se retrouve avec vous, notamment vous les auditeurs, ça vous fait réagir au 01 53 48 3000, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
C'est la crise, chers amis auditeurs, oui. Alors le face-à-face avec Jimmy Dalidou, mais également avec Pierre-Henri, 01 53 48 3000, vous êtes les bienvenus, et ça débat notamment sur... ces fameux 10% de consommation pour éviter la catastrophe. Jimmy Dalidou,
oui, alors, cet hiver. Pour répondre à Pierre-Henri qui est très positif, très utopiste, parce qu'il par rapport à la crise, la crise va s'améliorer. Non, rêve pas.
Parce
qu'en fait, ce problème d'énergie et tout le reste reflète un problème qui est bien plus profond, qui pose la question du mode de production et du mode de répartition. Le mode de production capitaliste se casse la gueule. Il est totalement irrationnel.
Messieurs, je sais que vous
êtes produire autrement.
S'il vous plaît, chacun tour de rôle. Finissez, Jimmy.
Parce que ce système capitaliste est totalement incohérent. Je prends un exemple concret. Lorsque vous avez des bourgeois monopolistes qui vivent dans la puanteur de leur luxure et qui nous demandent à nous, classe ouvrière et couche populaire, de couper le chauffage. Moi, j'aimerais, je voudrais qu'on réponde à la question de Jamila. Ils vont couper leur chauffage, eux?
Dans leur Jamila, Jamila, les auditeurs, 0153 48 3000. Pierre-Henri, c'est vrai que Jamila, elle pose une question.
Mais Jamila pose une question qui est réelle et il y a près de 10 millions de Français et de Françaises qui vivent dans la précarité.
Beaucoup plus.
Je comprends.
Beaucoup plus. Tu reprends le chiffre officiel. On est plus de 60 millions de Français et plus de la moitié des Français sont précarisés.
Ouais, alors, la moitié des Français
sont précarisés. Si, 10%, c'est 10 millions, c'est rien.
J'ai le droit d'exagérer.
Ça, c'est le chiffre officiel.
Mais bien sûr, les chiffres officiels de la CGT
qu'on connaît. Pas seulement de la CGT.
Bon, je voudrais simplement revenir sur le sujet. Bien sûr, il y a 10 millions de Français et de Françaises qui sont précarisés et qui peuvent s'interroger sur le sens de ce message. Le message, il est lequel ? Il est tout simplement que nous rentrons dans une période de raréfaction de l'énergie. Pourquoi ? Parce que il y a un conflit...
Parce que tu produis pas.
Et que nous sommes Européens extrêmement dépendants...
Et les Allemands ? Les Allemands ?
La Russie. Et que nous dépendons à 17% du gaz russe.
À contre l'envolée des prix, les Allemands, eux, plus de mesures. Voilà, ils ont adopté en tout cas 50%. Plus de mesures avec des aides un peu plus massives que la France.
Ce que l'on demande aux personnes, c'est tout simplement de réduire leur consommation d'énergie.
Rien de plus. Les auditeurs ont la parole. Comme le sujet est préoccupant, messieurs, je voudrais qu'on ouvre l'antenne. Ils sont nombreux à nous appeler, donc allons-y. Fadel, bonsoir Fadel.
Bonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville, Fadel ?
Alors, je vous appelle du 95, de Montréal exactement.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci. Alors, par rapport aux annonces de M. le Président de réduire nos factures, nos consommations de 10%, c'est quelque chose
radio.
De...
Éteignez votre radio, s'il vous plaît, parce qu'on a un écho à l'antenne. Éteignez votre radio, s'il vous plaît.
Alors, je disais, pour réduire notre consommation de 10%, c'est quelque chose que, je dirais, c'est jouable. Mais est-ce que cette réduction va entraîner aussi une baisse des factures ? Parce que si on réduit notre consommation et la facture reste la même, c'est d'un raisonnement logique. À quoi ça sert si je réduis ma consommation et je paye la même chose ?
Oui.
Évidemment,
mais c'est vrai.
Maintenant, si on en a un F4 et on en a un F5, au lieu de chauffer toutes les pièces, on peut chauffer une pièce principale. Et cette pièce principale qu'on va installer dedans et tout, et l'autre côté, dormir, on dort avec des bonnes couettes, on se réchauffe bien, on s'habille bien, et voilà.
Je remarque que les auditeurs sont beaucoup plus sages que le représentant de la CGT. Hein.
Ben, c'est pour ça, ça que, fait, c'est pour ça, ça que plaisir, je vais revenir sur ce que disait tout à l'heure Pierre-Henri, parce que c'est un petit peu utopiste ce qu'il disait. Concernant la production d'énergie, je vais traiter de quoi.
Merci Fadel.
Merci à vous.
Merci, on a d'autres auditeurs au 01 53 48 3000. Réaction, Jimmy Dalidou.
En fait, toi tu poses la question dans le cadre de l'Union Européenne. Bon, évidemment, oui, effectivement, l'Union Européenne est une dictature du capital à grande échelle. Ça, c'est clair. Maintenant, le problème qui se pose...
Pierre, il n'en peut plus.
Que quand le gaz ou l'électricité, elle est différentes formes d'énergie, il faut les produire. Il faut les produire. Est-ce que, Pierre, est-ce que tu produis de l'électricité, du gaz en France, par exemple? Non, tu n'en produis pas. Il vient de Norvège ou il vient d'Algérie, il venait de Russie. Seulement, ils ont coupé les vannes. Mais ça fait des années, ça fait des années qu'on ne produit plus en France parce que la classe dirigeante française a savamment orchestré la destruction du mode de production, de la production en France, et qui a été littéralement pulvérisé sur l'autel des super profits. Il est là le problème. Donc ce qu'il faut, il faut frapper le mal à la racine, c'est-à-dire qu'il faut frapper là où il y a du fric. Et là où il y a du fric, c'est chez Total, c'est chez les monopoles.
Pierre-Henri.
Frapper le mal à la racine, c'est Sandrine Rousseau qui va être contente.
Sandrine Rousseau va être contente, ça c'est sûr.
Eh ben, tu sais quoi, tant mieux.
Oui. Sonia, tiens, non, Sonia nous appelle de Bordeaux. La Bordelaise, ma chère Sonia, bonsoir.
Oui, bonsoir, chère équipe.
Allez, on vous écoute, ma chère Sonia.
Mais moi, je suis dans le vif du sujet. Par où commencer? Parce que les restrictions, ça va faire 2 ans que je les connais. Je suis maman de 4 enfants. Et maintenant, ils s'amusent à la CAF. Là, par exemple, on m'avait tout suspendu, tout coupé, puisque j'ai eu un malheur de créer une entreprise que j'ai pas pu tenir. Donc, du coup, je pensais l'avoir radié. C'était pas le cas. Donc, le fait de pas avoir justifié, je me retrouve sans rien. Et donc, l'été, bien sûr, comme dit Macron, visite la France, on veut bien. Mais comme dit la personne précédente, est-ce que Macron, lui, fait ce qu'il nous demande de faire? Parce que je vous assure, c'est très, très compliqué ce que nous vivons. Je suis vraiment dans le vif du sujet. Donc après, si on nous demande, restreindre, j'ai envie de dire, depuis le confinement, on nous a restreint pas mal de choses. Donc après, coupure ou pas, nous, on a l'habitude.
C'est dur d'entendre ça. Hein. C'est dur, ça rejoint un peu ça.
Que les choses sont claires, si on se restreint encore plus, c'est la
insurrection. La difficulté économique dans laquelle peuvent se trouver un certain nombre de nos compatriotes. Mais je voudrais rappeler que le taux d'indépendance énergétique du pays atteint plus de 50%. Mmh. Et grâce à quoi? Grâce notamment au nucléaire, ce qui fait que nous sommes un peu mieux placés que d'autres. Je voudrais rappeler, deuxième élément, que, hélas, nous n'avons pas de puits de pétrole en abondance et que, de toute façon, les recherches pétrolières sur le territoire national ont été stoppées par un arrêté de 2017. Donc, bon, voilà, nous sommes dépendants de l'extérieur. Il faut réduire cette dépendance. Il faut travailler à une souveraineté européenne en matière énergétique. Comment on fait? Surtout quand nous avons des modèles aussi divergents en Europe. Tout à l'heure, nous parlions de l'Allemagne. Il est clair que l'Allemagne a un modèle qui le rend totalement dépendant de la Russie. 58% de l'alimentation allemande se fait par le gaz russe. Nous, 17%. Donc, il y a une solidarité européenne à avoir. Mais je repose une question qui me paraît fondamentale, qui ne s'éloigne pas de la simple question de la consommation, qui est quand même celle de connaître l'issue de la guerre en Ukraine.
Exact.
Parce que, c'est une guerre longue qui est voulue par les anglo-saxons, c'est-à-dire par les Américains et par les Anglais, qui sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Quelle est la position de la France? Il me semble que tout cela doit être débattu et mis...
À autre auditeur. Sonia, je vous libère. Merci, ma chère Sonia de Bordeaux, d'être intervenue. 01 53 48 3000. Allô, bonsoir.
Allô.
Bonsoir. Allô. Quel est votre prénom et vous nous appelez d'où?
Je m'appelle Amar.
Amar, bienvenue.
Je vous appelle de la région parisienne, de Stein exactement.
Stein, on vous écoute, mon cher Amar.
Bon, ce problème d'économie d'énergie, moi je ne crois pas. Ça, c'est la première des choses. Parce que s'ils vont faire d'énergie, ils vont éteindre l'éclairage de la rue, dans les rues où il y a moins de pauvreté, ça doit être des agressions, des attaques la nuit parce qu'il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de tout. Ce problème, il était créé par les États-Unis comme l'habitude de le faire. Depuis la mort du général de Gaulle, tous les présidents français suivent les Américains comme des petits chiots d'arrière.
Ouais, vous trouvez ?
Oui, oui. Parce que de Gaulle, quand il voit des choses à travers, il leur dit non. Eux, ici, il n'y a personne maintenant qui leur dit non. Elle était partie en Afghanistan, ils l'ont suivi. Elle est partie en Irak, ils l'ont suivi. Elle est partie en Syrie, ils l'ont suivi. Elle est partie en Libye, ils l'ont suivi. Elle crée des choses, ils les envoient, ils vont partir. Et maintenant, eux, ils roulent en Rolls-Royce. Et nous, avec la bicyclette, ils retournent à Paris. Moi, je ne crois pas que les gens ils vont écouter.
Eh bien, écoutez, merci Amar. Effectivement, c'est un point de vue. Vous êtes très nombreux à nous appeler au 01 53 48 3000. Dites-moi, d'abord Jimmy Dalidou
juste pour répondre à Pierre-Henri, voilà.
Et après, on passe à un autre sujet.
Sur l'Union européenne dont il parlait, le problème n'est pas. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut poser le problème au niveau européen.
Dans quel sens ?
Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, je vous rappellerai quand même que les directives qui émanent des instances dirigeantes de l'Union européenne ne sont pas des conseils. Ce sont des directives, ce sont des obligations. Les directives de l'Union européenne qui émanent des différentes entités sont doivent être transposées dans les différentes lois nationales. Et si elles ne le sont pas, les pays qui normalement devraient transposer ces lois sont punis. Il y a des sanctions et ils sont parfois étouffés financièrement. Donc tu disais que l'Union européenne, il fallait renforcer... le problème au niveau européen. Maintenant, le problème qu'il faut d'abord sortir. Non, le problème, c'est que l'Union européenne, de par ses directives, justement, a organisé la casse de la production en France, comme dans tous les pays, par la désindustrialisation, par la privatisation des services publics et autres, qui a ouvert la porte aux capitaux privés, qui a ouvert la porte, qui a permis d'accélérer le processus d'accumulation, de concentration. Concrètement, ça a ouvert la porte aux multinationales qui se sont goinfrées sous couvert de l'Union européenne.
Alors, 01 53 48 3000, on va passer à ce second sujet, mais je voudrais juste accueillir Fatima de Paris, et ensuite on parle de l'imam Hassan Iqoussen, qui a évidemment, je crois qu'il a été soutenu sous la forme d'une manifestation ce week-end, c'était samedi dernier, avec environ, on parle de 200 personnes. Fatima, bonsoir.
Bonsoir Adil, bonne rentrée à toi et à tout Dorassem.
Merci ma chère Fatima et belle reprise aussi à vous également.
Merci. Moi je sais pas si on a voté pour des gens qui veulent nous créer la psychose. Alors si c'est pas le Covid, c'est le truc du singe. Si c'est pas le singe, c'est... Et on se chauffe pas et alors on revient au majmar et au charbon et c'est tout. C'est pas les particuliers qui gaspillent l'électricité, parce qu'il est tellement, l'électricité est devenue tellement chère, c'est devenu un luxe. C'est les centres commerciaux. Des fois je passe à côté de la maison de la radio, vous avez des salles immenses vides, toutes les lumières sont allumées pendant toute la nuit.
D'ailleurs, c'est quoi, on a taclé le ministre de l'écologie, de la transition écologique, de laisser les lumières allumées le soir quand il quitte les bureaux.
Bah les automobilistes parisiens le constatent.
J'étais dans une administration tout à l'heure. Alors c'est des grandes vitrées et il y avait je crois 8 ou 9 lampes allumées, j'ai éteint.
Finalement Jamila d'Aix-en-Provence soulève la question. Elle disait, est-ce que les mêmes, ceux qui nous dirigent, est-ce qu'ils montrent l'exemple?
Mais la réponse est là, non, ils ne donnent pas l'exemple.
Quand les journalistes fassent des enquêtes, combien
de sobriété énergétique qui a été décidée pour l'ensemble
des ministères. Mais non, c'est comme, je vais vous dire une chose, Adil, je finis.
C'est une sobriété du capital.
Adil,
oui.
J'étais en vacances, 2 mois. Et donc, j'ai pas eu beaucoup de... J'ai pratiquement pas
allumé. Fatima, 2 mois de vacances, c'est bien.
Oui, je suis retraitée, je suis payée pour ne rien faire.
Bah là, travaille tout ça, Fatima.
Écoutons-la, qu'est-ce que... Et donc...
Écoutez. Alors, le prix des taxes est 2 fois plus élevé que la consommation. le prix des taxes, deux fois plus élevé que ma, parce que j'avais presque pas de consommation. Et donc c'était deux fois plus élevé, je me suis dit, moi je achemine mon de je sais pas quoi, ou j'achemine moi pour tout le quartier, quoi. Eh ben c'est deux fois plus. Donc c'est tellement cher l'électricité que les smicards et même les cadres maintenant, ils sont en train de ramer. C'est pas la peine de dire, il y a que les politiques qui arrivent à se retrouver. Les autres, oui, nous.
Merci pour votre fidélité.
Au revoir,
très bientôt, ma chère Fatima. Autre sujet, messieurs, c'est celui de cette manifestation samedi. Une manifestation de soutien à l'imam Ikoussen, ça s'est passé à la place de la République. On parle de 200 personnes qui se sont réunies. Messieurs, je voudrais vous entendre, évidemment, sur tout ce qui se dit concernant l'imam Hassan Ikoussen. Pierre-Henri.
Alors, comme je pensais que nous allions parler de l'imam Ikoussen, moi, je suis venu avec le jugement du Conseil d'État le concernant. Et ce jugement, il est très intéressant, parce que dans un premier temps, le Conseil d'État remet en cause un certain nombre d'accusations qui ont été portées par le ministère de l'Intérieur.
C'est ça.
Le Conseil d'État dit très clairement que quand le ministre dit que l'imam aurait affiché publiquement sa sympathie avec Oussama Ben Laden, aurait remis en question la réalité des attentats terroristes revendiqués par l'organisation Daesh, bien, il dit sauf que le ministère de l'Intérieur ne prouve nullement ses dires. Donc ça, c'est un premier élément. En second lieu, le Conseil d'État dit quand même, l'imam a produit des vidéos antisémites et n'a rien fait pour les retirer. Et puis surtout, il a produit en 2021 encore des vidéos où il développe un discours systématique sur l'infériorité de la femme. Et qu'un tel discours théorisant la soumission de la femme à l'homme, impliquant que les femmes ne puissent bénéficier des mêmes libertés ou des mêmes droits que les hommes, méconnaît au détriment des femmes le principe constitutionnel d'égalité. Puis enfin, troisième élément, dit mais l'imam qui est né en France en 1964, qui a toujours résidé en France, qui a eu des titres de séjour jusqu'en juin 2022, à ses enfants qui sont français et qui sont majeurs, et de ce point de vue, l'éloignement vers le Maroc ne pose pas de problème, d'autant plus que sa femme est marocaine. Et voilà, en gros, ce que dit le Conseil d'État. Et en fait, c'est au moment du renouvellement du titre de séjour qui arrivait à terme en juin 2022 que le ministère de l'Intérieur s'est saisi de cette question. Évidemment, il en a fait un symbole et il en a fait un totem politique pour son chemin qui, imagine-t-il, doit le conduire vers 2027. Et en face de cela, il y a aussi un certain nombre d'idiots utiles à Gérald Darmanin qui ont appelé, par exemple, samedi, à manifester à la République. Moi, selon mes sources, ils n'étaient pas 200, ils étaient quelques dizaines, mais peu importe. La situation de l'imam est maintenant très claire. Il est hors du territoire et il y a quelque chose d'un petit peu ridicule à vouloir aller le chercher pour le ramener sur le territoire, pour l'expulser. D'ailleurs, l'expulser vers où ? Parce que, au passage, le Maroc est quelque peu tendu sur cette question et du coup a supprimé le passeport consulaire. Bref, tout ça, c'est quand même de la mise en scène, de l'instrumentalisation. Encore une fois, les propos de l'imam sont totalement condamnables. Ils ont été condamnés
par le Conseil d'État. Je rappelle malgré tout que quand quelqu'un se comporte de la sorte, produit des discours antisémites, d'infériorité de la femme, si c'est contraire au discours républicain, il faut aussi le traduire en justice, ce qui n'a jamais été fait pour l'imam.
Jimmy Dalidou.
Oui, alors, je pense qu'il faut dissocier effectivement deux choses. Les propos que l'imam, cet imam aurait tenu, je reste conditionnel, aurait tenu, bon. Et sa situation de vie. Bon, effectivement, sur ses propos, il faut qu'il y ait, la question se pose, pourquoi il n'a pas suivi une procédure judiciaire normale? Voilà, tout simplement. Et pourquoi cette procédure judiciaire normale ne s'est pas, pourquoi, alors on nous dit, ça fait combien de temps que, les différents ministres, le ministre Darmanin nous dit, et d'autres, que la justice est indépendante, qu'elle doit faire son travail, qu'elle fait bien son travail, etc., etc., que les hommes politiques n'ont pas à s'en mêler. Et là, bizarrement, face à cet imam-là, et on est face à un cas qui ne suit pas la procédure judiciaire normale, il ne rentre pas dans le cadre d'une procédure judiciaire normale, s'il a des propos qui doivent être condamnés, ils doivent être condamnés, mais dans le cadre d'une procédure normale. Et je ne vois pas pourquoi le ministre se substitue les prérogatives.
Attendez, il vous répond.
Je vous réponds. La procédure.
Parce que j'ai pas fini,
normale.
Mais je reviendrai.
Il avait un titre de séjour de 10 ans. À l'issue, ce titre de séjour arrivait à terme. Il a demandé le renouvellement. Il est étranger en France. Le ministère de l'Intérieur se penche sur le renouvellement. Il dit non, le type là, il tient des propos qui sont incompatibles avec la République. Je reviens pas dessus, je l'ai dit tout à l'heure. À partir de là, il est clair qu'il y a eu un emballement, qu'il y a eu une exagération, qu'il y a eu une instrumentalisation, et que d'une certaine manière, la posture qui a été prise par Gérald Darmanin revient à faire de l'imam un apprenti martyr. Vraiment, c'est pas la peine. Moi, j'ignorais le nom de l'imam. Je crois que beaucoup d'autres l'ignoraient et s'en foutaient royalement. Maintenant, tout le monde le connaît. Bon,
il y a deux choses importantes.
Je vous donne la parole, pub, et on se retrouve tout de suite après, y compris 0153483000 si vous souhaitez intervenir. Jimmy, juste après la pub, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Dernière ligne droite, avant de rendre l'antenne, 19h24, messieurs, un petit mot encore sur...
Deux choses par rapport à ce cas-là.
Je devais vous redonner la parole.
Alors, deux éléments. Le premier élément, c'est que, oui, effectivement, c'est que c'est un homme qui a vécu dans le Nord, il est né en France, il a grandi en France.
Il connaît bien le ministre Darmanin.
Et c'est toujours bon de rappeler que tous ses enfants sont français. C'est important aussi de rappeler, pour pas qu'il y ait de confusion, qu'il a demandé deux fois la naturalisation française qui lui a été refusée. Deuxième élément, je reviendrai sur le plan social, c'est que indépendamment du fond au niveau de la manif, qui est indépendant du fond et du fait, oui, effectivement, c'est une manif pour défendre l'imam, dans la forme, je sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières années, toutes les manifs sont carrément interdites, déportées, vous n'avez plus le droit de manifester dans ce pays. Donc ça aussi, c'est un véritable problème, indépendamment du sujet. Là, c'est le sujet, c'est l'imam. Et la troisième chose, c'est le sujet des fichés S. Cet imam avait été fiché S depuis 18 mois. Je vous rappellerai, attention à ça, parce que je vous rappellerai que pendant les Gilets jaunes, les gouvernements, je vous rappellerai d'abord que les fichés S, ce n'est pas seulement des terroristes islamistes. C'est aussi une opposition politique, des opposants politiques qui sont aussi fichés S. Et à l'époque des Gilets jaunes, déjà, certains avaient proposé d'enfermer dans des camps tous les fichiers S. Donc attention, parce que ces sujets sont peut-être parfois universalisables, et lorsqu'elles sont étendues, lorsque cette logique elle est étendue à d'autres personnages, à d'autres situations sociales, ouais, bon, alors là, ça devient dangereux.
Oh non, mais là, je pense qu'on est dans la fabulation.
On est dans la réalité sociale. Pierre-Henri, mais toi, quand t'es un utopiste pro-européen, je pense pas que tu puisses le comprendre.
Pour les fichiers S dans ce pays, pour les gilets jaunes, je ne sais quoi, etc.
Ils n'ont pas proposé ça pendant les gilets jaunes. Ils ne voulaient pas enfermer les fichiers S et tous les manifestants qui posaient problème.
C'est tellement fake news que...
Ah non, c'est pas une fake news, ils l'ont dit en direct sur différents plateaux de télé.
Que c'est pas...
C'est très subjectif
pour
Fick News.
Intéressant.
Apparemment, ta subjectivité, c'est
d'être dernier sujet, messieurs, juste avant de rendre l'antenne, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on parle des Républicains qui commencent à s'installer. Ça y est. Les Républicains, vous savez, il y a les échecs. La campagne présidentielle avec Valérie Pécresse.
4,5%, non ?
Absolument. Merci de le rappeler. Et puis surtout, les élections, qui pour diriger ce parti ? Alors, les Républicains, est-ce qu'ils vont pouvoir se redresser ?
Oh ben, entre Ciotti, Retailleau et Wauquiez, qui sont tous sur la même ligne et totalement compatibles avec l'extrême droite, bon courage pour eux. Franchement, voir ce qui est devenu ce grand parti de droite républicain.
Grand parti de droite,
mais
voyons.
Oui, parce que la France... Oui. Attention, la France est encore à droite. La France est à droite.
Mais bien sûr,
il a raison, Pierre-Henri. La France est à droite.
Et je suis désolé.
Mais caractériser le LR comme à droite,
mais
comme étant à droite.
Enfin, ils ont donné... Les LR ont donné un certain nombre de présidents à la France, de près ou de loin dans des formations diverses, Giscard d'Estaing.
Apparemment, vous n'avez pas compris la leçon des Français, je crois.
Etc.
En fait, les Français aux dernières élections, non, mais je crois que vous n'avez pas compris la leçon. Ils ont dit que de toute façon, qu'ils soient à droite ou à gauche, c'est tous les mêmes, et que de toute façon, les Français ne veulent pas voter pour eux. Ils ne veulent plus de.
On doit rendre l'antenne dans une minute.
Je ne suis pas en train de défendre les Républicains.
Non.
Ce n'est pas la question. Je dis tout simplement qu'ils n'ont pas de logiciel et qu'ils n'ont rien.
Mais c'est un parti, c'est un parti. Ah, ce n'est pas un parti prolétarien, alors que le prolétariat forme la majorité des Français. Ce n'est pas un parti issu de la classe ouvrière des couches populaires. Ce n'est pas un parti qui représente les intérêts du peuple travailleur. C'est un parti qui représente la classe des riches, point barre. C'est aussi simple que ça. C'est un parti qui représente le clash des riches et qui a des présidents qui ont exploité la classe ouvrière et les couches populaires, donc la majorité des Français. Ça. Voilà ce que c'est ce parti. Et c'est pour ça que les Français, ils leur ont mis une déculottée aux dernières élections.
Il s'est passé des choses depuis mars.
Ouais. Bah ouais, tu m'étonnes. Et c'est pour ça que tu vas voir au mois de septembre, on va remettre une couche. Tiens, il s'en est passé des choses. Il va s'en passer des choses au mois de septembre. D'ailleurs, j'appelle les Français à descendre dans la rue.
Merci à Pierre-Henri. Quel débat. Non, mais c'est aussi ça le principe, évidemment, du débat. Pierre-Henri, à très bientôt.
Eh ben. Quand vous voulez.
Le patron de France Fraternité, qu'on retrouvera très prochainement sur notre antenne. Absolument.
Pour une belle émission.
Absolument.
Des pays en débat.
Ça donne déjà envie. Jimmy Dalidou, représentant CGT, à très bientôt.
Et auteur,
absolument.
Merci à tous.
Merci aux nombreux auditeurs d'être intervenus sur l'antenne au 01 53 48 3000. Merci à la réalisation. À Giovanni. La classe. À demain, avec autant de plaisir. Bilal Nenman, eh bien, vous allez le retrouver de 20h à 21h avec Time Sport. On ne lâche rien. À demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.